Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage. 2 heures de détente rieuse pour vous, de stress et de larmes pour eux. Comme ils n'ont pas naturellement le goût du travail bien fait, comme notre invité du jour, cette saison on a été obligé de secouer un peu les journalistes de la rédaction qui avaient tendance à lambiner, à un peu trop glander à la machine à café, tout ça pour échanger des calembours qui ne volaient pas très haut.
Qu'est-ce qui est vert et qui descend de la montagne ? Un ski, oui.
Et quand on avait le malheur de leur demander de bien vouloir bosser un peu, ils nous répondaient
« Ah non, c'est nul, hein !»
Désormais, pour les stimuler, on a décidé de les mettre en compétition. Chaque après-midi, nos journalistes s'affrontent sur le ring du savoir. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus captivé. Heureusement pour elle, grâce à un piston au niveau de la direction, elle a réussi à être classée hors compétition. Bonjour Eva Roque.
Exactement. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On n'a toujours pas compris pourquoi vous étiez hors compétition,
parce
c'est comme ça.
Parce que je vous supporte tous les jours.
Ah c'est ça, voilà, voilà. Vous avez un bonus pour ça.
Exactement.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ce soir, mais d'abord, accueillons notre invité arbitre du jour, dont la voix comptera triple en fin d'émission. C'est quelqu'un que vous admirez beaucoup, Eva. Donc, je pourrais vous laisser la présenter. En même temps, en matière d'accueil des invités, vous avez une assez triste réputation, un lourd passif de gaffe.
Merci d'être là. On prononce pas le S de votre nom de famille, on est d'accord, hein ?
Non, non, d'autant plus qu'il n'y a pas de S dans mon nom. Donc.
Alors, vous comprendrez que, s'agissant de quelqu'un qu'on aime beaucoup, je préfère m'en charger. Elle est à la tête du nouveau rendez-vous culturel quotidien de France 5, du lundi au vendredi à 20h20, Passage des Arts. Bonjour Claire Chazal.
Bonjour Mathieu.
Souvent.
Bonjour Eva.
Claire.
Bonjour Claire.
Oui, on se connaît.
Mais oui.
On
bah
se
oui,
connaît un peu,
oui,
il faut oui, l'avouer à nos auditeurs. Voilà, oui. Alors, surtout en télé, le mot culture fait peur. Ici, vous me connaissez, faux cul et opportuniste comme toujours. Je remplace souvent à dessein le mot culture dans mon émission par le mot découverte, que j'estime plus fun. Vous, dans votre émission, vous assumez le côté culturel.
Oui, alors le mot découverte est bien aussi.
Hein. Oui, moi, le
nous sommes très ouverts, nous ne voulons surtout décourager personne. Bien sûr, être exigeant, je crois, mais en même temps très ouvert, non élitiste. On veut en fait transmettre des envies, des désirs, des passions, dire regardez, écoutez cet artiste, ça nous a plu, ça vaut la peine. C'est un peu un exercice d'admiration, même si on essaie de pas totalement complaisant, bien sûr, mais...
En même temps, vous recevez des gens que vous aimez.
Oui, enfin voilà, moi j'ai eu ma vie de journaliste, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir les artistes que j'aime, que je vais voir, que je connais depuis longtemps, dont ils savent que je leur suis fidèle, même si j'aime pas forcément tout de leur travail, mais c'est plutôt l'idée d'être bienveillant. Voilà.
On va évidemment parler de cette émission chaque soir à 20h20 sur France 5. Mais d'abord, Claire Chazal, je me dois de vous présenter les forces en présence. À ma gauche, il est au journalisme ce que le diesel est au moteur à explosion. Après des débuts un peu mous, pour ne pas dire piteux, il a fini ces dernières semaines par remonter au classement européen et même par remporter le vote du public devant François Gabart mardi. Depuis, c'est un autre homme.
Je vous aime, public.
Oui, on parle pas non plus. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous avez peut-être trouvé la martingale, c'est en parlant au cœur de nos auditeurs qu'ils votent pour vous. Cet après-midi, ça va encore chialer dans les chaumières.
Imaginez, vous assistez à un concert, vous êtes dans la salle et puis juste après l'entracte, vous vous retrouvez sur la scène pour chanter avec le reste de l'orchestre.
Mais vous savez quoi ? Ça s'est vraiment passé ? C'est une histoire que vous allez nous raconter ?
C'est une histoire vraie, ça s'est passé dans le milieu de l'opéra. Je vous raconterai ça tout à l'heure.
Vous savez que c'est vrai, j'ai déjà fait ce rêve, moi.
Ah mais c'est un rêve.
Oui. Ah oui, ah bah oui, c'est un rêve,
enfin,
parce que
ou un cauchemar, ça
oui, mais c'est un cauchemar pour les spectateurs oui. présents dans le concert. Face à vous, Claire Chazal, il y a ceux qui font de la télé avec un physique de radio, c'est mon cas, et ceux qui font de la radio avec un physique de télé, ce qui est con. Je vous présente celui qui hier n'était pas là pour l'émission avec Jarry, mais le célèbre humoriste actuellement en spectacle à l'Européen a tenu à vous laisser un petit message à Nice.
Viens en slip d'ailleurs si tu veux, on s'occupe du reste.
Bonjour Nice.
J'adore Jarry.
Bonjour oui, Mathieu. Je crois que c'est très réciproque. Vous êtes notre expert innovation et aujourd'hui vous êtes porteur d'une bonne nouvelle.
Oui, parce que dans ce déluge de mauvaises nouvelles sur le réchauffement climatique, sur les microplastiques qui arrivent dans nos assiettes, bah, un petit rayon de soleil, hein, on vient de découvrir que le polystyrène, un des plastiques les plus utilisés, bah, se dégrade beaucoup plus rapidement que prévu. Et vous allez voir, ça a des conséquences inattendues.
Voilà pour le programme, les amis. L'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc la journaliste la plus célèbre de France, Claire Chazal, qui nous accompagne. Et croyez bien que je ne dis pas ça à tout le monde. Élise Lucet, la meilleure journaliste de France.
Incorruptible, à qui on tresse des lauriers depuis le début de cette émission.
Non. Bref, ah, c'est dégueulasse. Claire Chazal, on vous retrouve tous les soirs sur France 5 dans Passage des Arts, du lundi au vendredi à 20h20 et aussi le samedi à 22h20 si je ne m'abuse.
Exactement.
Eva, alors dans Passage des Arts, le but c'est de parler d'art et de culture à ceux qui adorent déjà ça, ou bien au contraire c'est d'essayer d'intéresser à l'art ceux qui a priori n'en sont pas spécialement férus.
Alors bien sûr, nous sommes sommes sur France 5, donc c'est une chaîne du savoir, de la connaissance, de la transmission, très cohérente d'ailleurs, sur laquelle moi je me trouve extrêmement bien, je me trouve dans mon élément. Et l'idée, c'est bien sûr d'avoir un public un petit peu averti, mais aussi d'essayer de conquérir des publics qui ne seront pas forcément adeptes de la culture, en tout cas d'une culture exigeante, comme on essaye de leur montrer. Donc, moi je ne sais pas qui est mon public. Je sais évidemment... J'allais dire hélas que je n'aurai jamais les millions de téléspectateurs que j'avais aux 20h, et ce qui est tout à fait normal. Nous ne sommes pas une chaîne généraliste, je ne fais pas une émission généraliste, je fais une émission de culture, de savoir. Donc je réduis mes prétentions, évidemment on essaie de faire le mieux possible et on est heureux comme ça.
Vous avez quand même des grosses têtes d'affiche dans cette émission, parce que c'est un dialogue avec un invité qui nous donne son avis, son regard sur la culture, comme Mika, Amélie Nothomb, Chiara Mastroianni. Donc il y a vraiment des grosses têtes d'affiche dans cette émission. Guillaume Gallienne.
Bien sûr. Et c'est peut-être notre surprise, notre surprise heureuse, c'est que depuis que nous faisons cette programmation, et on a commencé bien sûr très tôt, au mois de juillet, parce que tout le monde se dispute les artistes et c'est tout à fait normal, on s'aperçoit que ces artistes-là viennent volontiers, que nous avons un panel effectivement très large, à la fois de gens très connus, et évidemment on le souhaite, mais aussi d'artistes moins connus, par exemple Jean-Michel Othoniel, par exemple Boris Charmatz, le chorégraphe, bien sûr Jeanne Chéral, alors elle est connue. Mais notre envie, c'est de ne pas faire d'exclusive et d'être très ouvert, de faire découvrir des univers et d'équilibrer tout ça.
Elle est éclectique, un mot qu'on aime bien ici et qu'on essaye de cultiver à notre manière. Oui. Vous la retrouvez tous les soirs à 20h20 dans Passage des Arts sur France 5. Claire Chazal est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, longtemps, admettons-le, on s'est comporté comme des sagouins vis-à-vis de l'environnement, surtout nous autres parisiens et surtout en vacances.
Ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre.
Le problème, c'est quand tu repars. C'est un vrai dépotoir.
Mais non, la neige, ça couvre tout, alors ça reste immaculé.
Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais?
L'été, tu vas pas ici, tu vas à la mer.
Heureusement, une bonne nouvelle vient de tomber. Bon, on est toujours aussi cons, mais heureusement, on vient de découvrir que le polystyrène mettait beaucoup moins de temps à se décomposer qu'on l'imaginait. 60 ans au lieu de 400. Anis Mbida nous explique. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, la preuve d'un goût certain. L'équipe est sauvage continue en fort belle compagnie puisque c'est Claire Chazal qui nous accompagne cet après-midi. Ensemble, on parle de son nouveau rendez-vous culturel depuis la rentrée Passage des Arts chaque soir à 20h20 sur France 5. Mais vous le savez Claire, la compétition n'attend pas. Dans les starting blocks, un homme, d'ailleurs gaulé comme Carl Lewis au JO de 92, ronge son frein. Un homme au physique, c'est vrai, avantageux, qui hier a semé le trouble dans le cœur de notre invité, l'humoriste Jarry, à qui j'avais montré sa photo.
C'est un chroniqueur quoi, lui ?
Technologie.
Il est gay ?
Non, officiellement.
Notez Anissé comme, afin d'entretenir la bonne humeur de l'invité, Eva est capable de dire n'importe quoi, quitte à lancer des rumeurs et à inquiéter votre épouse.
C'est moche que vous faites.
Non, mais j'ai des problèmes entre le sympathique gay.
Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Mon cher Anissé Mbida, c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez aujourd'hui.
Oui, parce que si je vous demande combien de temps mettrait un pack de polystyrène à se dégrader dans la nature, vous allez me dire combien ?
J'aurais dit 500 ans.
Ouais, moi, je pensais
on
aussi
peut penser que ça
c'est éternel, que c'est 500, 1000 ans, etc. Et bien, finalement, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on n'avait jamais pu réussir à vérifier, puisque les premiers plastiques datent des années 20 et que le polystyrène date des années 70. Donc, personne n'a pu vérifier si ça mettait 4 ou 500 ans. Et bien, des chercheurs de l'Institut Océanographie Woods Hole ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont testé ça dans des conditions de vieillissement un peu rapides et puis se sont rendus compte qu'en 60, 80, 90 ans, les boîtes de polystyrène pouvaient être complètement dégradées en CO2, ça avait complètement dissous dans l'eau, alors qu'on imaginait que ce produit était éternel. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que je vous vois venir avec les...
Ne me prêtez pas des intentions.
Mais non, parce qu'on
vous...
va dire que c'est une étude qui est sponsorisée par les spécialistes... Non, pas du tout. C'est une des plus grosses ONG américaines privées qui travaille vraiment sur la recherche dans l'océan. Donc, on ne peut pas les taxer de quoi que ce soit. Donc, c'est extrêmement sérieux comme étude, mais simplement, on n'avait jamais vérifié. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, la plupart des études sur la dégradation du plastique se basaient simplement sur les microbes qu'il y a dans l'atmosphère, qui avaient du mal à attaquer les polymères en plastique. Sauf qu'eux, on regardait aussi l'action du soleil. Il se trouve que les UV du soleil, la lumière du soleil, dégrade également le plastique. D'ailleurs, on s'en rend compte un peu tous, avec les transats en plastique qu'on laisse dans le jardin ou les jouets des gamins qui traînent. On se rend compte qu'à bout de quelques semaines, mois, etc., ils ont changé de couleur. Leur texture n'est plus du tout la même. C'est cette action qu'ils ont observée également également sur les plastiques et qui fait qu'ils se dégradent beaucoup plus rapidement.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'est vraiment trompé sur le plastique et que c'est une matière qui est pas pire qu'une autre finalement ?
Alors, on ne va pas aller jusque-là. J'imagine que cette étude va être détournée dans tous les sens, mais ce que ça signifie plutôt, selon moi, c'est que si on commence à utiliser des produits qui sont biodégradables et qu'on arrête d'utiliser le plastique actuel, on n'est pas obligé d'attendre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans avant qu'il n'y ait plus de plastique sur Terre. Ça pourrait se faire en 100 ou 200 ans. Donc moi, je trouve ça extrêmement positif. C'est-à-dire que si on fait énormément d'efforts dès aujourd'hui pour avoir des produits qui sont renouvelables, des produits biodégradables, on va dire, eh bien, on peut avoir une planète complètement nettoyée de ce plastique dans quelques années. Et puis, les chercheurs précisent quelque chose de très important, c'est que même si les UV dégradent le plastique en CO2, eh bien, on ne sait pas ce que les autres éléments du plastique deviennent dans la nature.
Ah, c'est ça, c'est le
problème. Donc, on reste quand même extrêmement prudent. On continue à se débarrasser de ce plastique et à passer par des choses beaucoup plus biodégradables, mais on peut nettoyer notre planète rapidement et ça, c'est une bonne chose.
Claire Chazal, vous faites attention au plastique. Vous utilisez encore des pailles en plastique, Claire Chazal, dans vos mojitos ? Dites-nous la vérité.
Non, moi, j'avoue, vraiment, alors là, je ne suis pas du tout exemplaire sur ce thème. Et j'ai bien conscience que ce n'est pas bien. Peut-être c'est une question de génération, pardon. Je suis un peu poussée par les jeunes qui sont, eux, très conscients. Mais moi, j'ai une révolution personnelle à faire. Je ne l'ai pas faite encore. Il n'y a pas assez de prise de conscience, ça, c'est sûr. Alors oui, j'essaye d'éclairer moins, de faire un peu de tri. Mais je n'ai pas encore de voiture électrique. J'ai beaucoup de progrès à faire.
La culture pour tous, c'est dans Passage des Arts, tous les soirs à 20h20 sur France 5. Claire Chazal passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, c'est une histoire incroyable dans un film, on n'y croirait pas d'ailleurs, et pourtant c'est bel et bien arrivé. Une cantatrice venue assister en spectatrice à un concert a remplacé la soliste au pied levé en pleine représentation. Bon, évidemment, le temps qu'elle se chauffe la voix...
Pam, pam,
vu qu'elle était un peu rouillée, le public s'est impatienté.
Je me vengerai.
Mais ça finit bien, Eva. Mieux qu'avec votre histoire à vous. Jean-Philippe Ballas nous raconte juste après Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Always Remember Us This Way, c'était Lady Gaga sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2h infopilante, c'est-à-dire à la fois informative et désopilante, en compagnie de la fine fleur de la crème désignée des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'affrontent au service de votre culture G. Et la culture, c'est important. Si par exemple, dans un dîner mondain, la conversation part soudain sur le dernier Modiano et que vous vous exclamez
« J'adorerais le voir en concert »,
vous risquez de baisser dans l'estime de vos amis. Une double solution à ça existe. L'équipée sauvage, bien sûr, 16h, 18h sur Europe 1, mais aussi Passage des Arts, tous les soirs 20h20 sur France 5, avec vous, Claire Chazal. C'est la culture, mais dans un face-à-face intime avec un invité. C'est ça la différence de votre émission.
Oui, alors la nouveauté de cette émission, puisque nous, l'année dernière, nous faisions déjà un magazine culturel quotidien, très libre, et évidemment, on en était heureux. Cette année, cette émission est revenue dans le giron vraiment de France Télévisions, dans une économie un peu différente. Et l'idée, c'est de recevoir un invité par jour, c'est-à-dire donc 5 invités toutes les semaines, en balayant les univers artistiques très différents, très larges. Et on essaye surtout de rentrer dans l'intimité, c'est peut-être pas le mot, mais d'essayer de les mettre à l'aise, de faire cette conversation agréable et d'essayer de découvrir des personnalités, en fait.
Eva, ouais.
Et pour ça, vous avez un luxe, c'est le temps. Oui. Parce que 25 minutes tous les soirs, j'ai pas souvenir d'une émission culturelle qui accorde 25 minutes à un invité comme ça.
Bien sûr, de toute façon, une émission quotidienne sur la culture, j'allais dire, même en images, ou de 25 minutes chaque jour, je crois que c'est unique en France, naturellement, en Europe sans doute, peut-être dans le monde aussi. C'est ça à quoi nous tenions, en fait,
Claire Chazal,
ce rendez-vous quotidien.
Quand même, Claire Chazal, quelle carrière! Quelle carrière, une carrière qui a
pris sa respiration.
Mais oui, parce que je suis intimidé et je me dis que finalement tout a commencé ici, Claire Chazal. Il paraît que vous avez été pigiste à Europe 1.
Oui. Avant d'avoir ma carte de presse, enfin de rentrer vraiment dans le journal dans lequel j'ai vraiment appris mon métier, je l'ai vraiment aimé d'ailleurs, même si Europe a été formidable, c'est le quotidien de Paris, ouais. Philippe Tesson, c'était en septembre 81. Et juste avant, j'ai passé quelques mois à Europe 1, en stage. C'était la grande période d'Étienne Moujotte, bien sûr, Robert Namias, etc. relativement misogyne, je pense que ça a un peu
changé.
Vous
en avez souffert à l'époque ?
Ah ben oui, il y avait très peu de femmes à l'antenne. D'ailleurs, parfois, Madame Europe n'avait pas de nom. Enfin, on s'en souvient. C'est dans Catherine, bien sûr, Catherine Ney était puissante et très importante et remarquablement brillante. Moi, je l'aime beaucoup, mais il y en avait très peu. Donc, je me suis retrouvée dans cette rédaction. J'ai appris ce métier, j'ai pris le Nagra. On a fait évidemment des faits divers, des chiens écrasés. J'ai trouvé ça très bien. Je n'ai pas été gardée, car...
Étienne, si tu nous écoutes.
Car il a dit à ce moment-là, je crois qu'elle n'est pas faite pour ce métier.
Boum. Effectivement.
C'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est normal.
Vous avez reparlé avec lui après ?
Oui, bien sûr, chaque fois. Après, je lui ai rappelé, on a ri beaucoup.
En 2018, Claire Chazal, vous avez écrit un ouvrage très personnel, Puisque tout passe. Déjà, on peut saluer la qualité du titre, très beau titre, Puisque tout passe. Je pense qu'il a dû surprendre bon nombre de lecteurs, car vous livrez de manière très personnelle. Et on apprend notamment que vous n'êtes pas du tout la femme sereine qu'on pouvait imaginer au JT de TF1. Vous confiez que vous étiez terrassée par le stress, la peur et les phobies, parfois jusqu'à la nausée, notamment lors d'une interview de François Hollande le 14 juillet 2015. Ça, bah alors vraiment, moi qui vous connais un tout petit peu, j'imaginais pas du tout que vous étiez quelqu'un de stressé. On vous voit très sûr de vous à l'antenne, très.
Bien sûr, l'idée c'est de montrer une sérénité, de montrer un calme, parce que déjà nous annonçons des choses tellement dramatiques que si en plus on oppose le visage de la panique, c'est effroyable. Donc moi, je pense que j'ai réussi à montrer ce calme, mais à l'intérieur, nous sommes des êtres humains. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est ça aussi la qualité d'un journal. Je pense qu'un journal doit être incarné, et d'être incarné par un être humain qui a ses sensibilités, qui a sa personnalité. Moi, j'ai des émotions en concernant certains sujets, bien sûr l'exode des enfants, les guerres, les maladies, la pauvreté, tout ça doit aussi apparaître en filigrane, apparaître sans apparaître, de façon presque subliminale, mais je pense qu'il faut montrer aussi une forme de sérénité à l'antenne, bien sûr.
Eva Rock.
Est-ce que vous vous souvenez avoir eu les larmes aux yeux pour une nouvelle que vous annoncez ?
Ah oui, bien sûr, c'est arrivé, bien sûr, bien sûr.
On ravale ses larmes, en fait
Oui, ça peut monter. Oui, ça peut monter. Alors, les plateaux, on le sait, d'un journal ne sont pas très longs entre chaque sujet. Donc, on a le temps de récupérer, y compris d'ailleurs pour ses phobies, ce cœur qui bat, etc. On peut se calmer entre les plateaux. Mais bien sûr, pour notamment des sujets sur les enfants en général, hein, ou des témoignages particulièrement bouleversants. Et Dieu sait si on en a eu, bien sûr.
Vous la retrouvez tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h20 sur France 5 dans Passage des Arts. Claire Chazal est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, la dernière fois qu'une spectatrice avait remplacé un artiste au pied levé durant un concert, c'était Eva Rock lors des retrouvailles de NTM à Bercy.
Yo ! Le rap, c'est pas du tout ma cam. Je préfère un son qui a plus d'âme.
Le service de sécurité avait dû intervenir. La même histoire a eu lieu. On réussit cette fois à l'opéra. Jean-Philippe Alas nous raconte. À tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Bienvenue dans l'équipée sauvage. Dans notre monde ubérisé, on note bien les chauffeurs de taxi, les livreurs de sushis. Alors pourquoi pas les journalistes ? Chaque après-midi, ils défilent au micro d'Europe 1 dans l'espoir de vous offrir l'info la plus étonnante, l'histoire la plus palpitante. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité d'honneur. Aujourd'hui, Claire Chazal et de ma fidèle Eva Rock, un des plus beaux esprits de la rédaction d'Europe 1, ce qui hélas n'est pas une donnée rassurante, comme a pu le constater notre invité d'hier, Jarry. Jarry, un mot à nos auditeurs pour leur donner envie de rester.
Union.
Et pas oignon, parce que ça veut rien dire en fait.
Oui, comme ils disent dans les ch'tis à Ibiza, elle a le mérite d'être entière. Lui aussi, il est entier. Grisé par son incroyable remontada au classement général, il pérore désormais dans les couloirs de la rédaction comme un coq sous stéroïde. Et quand un collègue émerveillé a le malheur de lui demander comment il fait pour être si bon, il répond, laconique et hautain.
C'est un secret.
Jean-Philippe Ballas, arrêtez un peu de vous la péter, c'est à vous encore une histoire gagnante aujourd'hui Jean-Philippe. Hein.
Je vous présente Adèle Charvet, les amis. C'est une jeune chanteuse lyrique et talentueuse, elle est mezzo-soprano, mais bon, ce soir-là, en principe, elle ne travaille pas, non, elle est assise dans le public, tranquille, comme ça, elle vient assister à une représentation du Messie d'Handel, le chef d'orchestre est un ami. Voilà, ça c'est le tube du Messie d'Handel. Alors, à l'entracte, le public va se dégourdir les jambes, classique, et Adèle Charvet croise par hasard la régisseuse générale. Salut toi, est-ce que ça va bien? Bah non, non, ça va pas du tout. Y a un des chanteurs, un contre-ténor en l'occurrence, il y a un des chanteurs qui a perdu sa voix. Il est malade, en plus il a un duo prévu dans la deuxième partie.
Il a pas de doublure?
C'est la cata, on peut pas reprendre. Alors, inquiète Adèle Charvet, elle file en coulisses, elle va voir son ami chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va remplacer le chanteur défaillant au pied levé. Et c'est Adèle Charvet qui va s'y coller.
Elle a remplacé une voix d'homme.
Oui, la voix.
C'est un contre-ténor.
Voilà, le registre, la tessiture.
Ça, quand même.
Bien sûr, très souvent d'ailleurs. C'est soit chanté par des contre-ténors qui ont cette voix féminine. Ah
bah vous m'apprenez quelque chose. Je ne pensais pas. Je savais qu'il y avait des voix d'hommes.
Les castrats, les successeurs des castrats.
C'est vrai, c'est
vrai. Bien sûr. Ou des hautes contres.
Tout ça correspond absolument. Bon, juste un petit détail, une petite broutille, c'est que Adèle Charvet n'a jamais travaillé le Messie d'Handel.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est pas non plus l'opéra le plus connu.
La partition, elle va la déchiffrer à l'arrache.
Mais
comme
non,
elle
mais
dit.
C'est pas possible.
En 10-15 minutes, on parle du Messie. Hein.
Mais c'est non, mais pas... c'est fait pour faire le buzz, c'est pas possible. Comment vous voulez? C'est tellement exigeant.
On est d'accord, c'est pas le petit bonhomme en mousse, c'est pas.
Ça.
C'est pas la danse des canards. Alors, elle raconte d'ailleurs qu'en coulisses, elle arrête pas de se tromper en répétant, il y a un stress évident. Mais bon, elle va prendre son courage à deux mains. Et c'est ainsi qu'après l'entracte, elle monte sur scène au milieu des musiciens, les choristes. Alors, ils sont habillés concert, c'est-à-dire qu'ils sont noirs, chic, tout ça. Ouais. Elle est en jean et t-shirt blanc. Forcément, c'était pas prévu et forcément, on ne voit qu'elle. Alors, elle raconte aussi qu'en général, elle arrive à maîtriser son stress avant un concert, ça fait partie de son métier. Là, elle avoue qu'elle tremble littéralement, mais elle va être soutenue, littéralement ovationnée par le public, ce même public où elle était encore il y a quelques minutes.
Non, mais ma question est simple, c'est est-ce qu'il y a eu une annonce qui a été faite à l'entracte pour expliquer la situation, pour dire qu'une personne allait rejoindre le casting du concert?
Forcément,
oui, forcément, parce que l'entracte a duré un peu plus longtemps que prévu,
donc
les gens posaient des questions.
Oui,
et voici notre Adèle Charvet qui a réussi son examen. Hein. Elle s'en est sortie, alors plutôt fière, en même temps aujourd'hui elle dit oui, c'était pas si insurmontable que ça. En tout cas, c'est une histoire intéressante parce qu'elle dit beaucoup de la fragilité de la voix. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques jours de me retrouver sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris.
Alors, vous avez chanté vous aussi, sur Philippe?
Il y a plus de 2500 places à l'Opéra Bastille. Quand vous regardez les sièges qui sont tout au fond de la salle, alors il y a des techniques de sonorisation aujourd'hui.
C'était pour les âmes galantes.
Voilà, quand vous regardez la scène,
elle est incollable.
Les sièges tout au fond et vous dites faut que la voix porte jusque là. C'est une performance assez incroyable.
C'est une acoustique un peu exceptionnelle.
C'est vrai
aussi. Pour ça.
Alors, Claire Chazal, moi j'ai une question pour vous parce qu'on parle du Messie, la grand-messe du 20h. Ça vous est arrivé, vous, de perdre votre voix comme ça, juste avant le journal?
En 30 ans, parce que j'avais avant le TF1 présenté des journaux sur Antenne 2.
Le dernier journal, c'est là que je vous ai découverte.
Ah voilà, le journal
Je n'ai jamais suivi les actualités aussi tard et aussi longtemps.
Enfin, c'était pas si tard à l'époque, parce qu'on arrivait à faire un journal à 23h et c'était formidable. J'avais fait aussi des journaux du petit matin. Et en une trentaine d'années de journaux, je dirais que j'ai dû m'arrêter deux fois. Faute de voix. Voilà.
Ah, seulement deux fois en 30 ans, oui.
Mais
ça fait,
par ailleurs, après, on surmonte et c'est vraiment pénible, mais on le fait, tout le monde l'a fait, Patrick l'a fait. Mm-hmm. Quand il y a une extinction de voix, d'abord, on essaye de se soigner, d'économiser sa voix avant, et puis de respirer et d'y aller. Hein.
Il nous reste à entendre, les amis, la question vache de l'autre chroniqueur, Nissem Bida.
Oui, la question que je voulais poser à Jean-Philippe, c'est dans quel autre secteur on demande régulièrement aux clients qui arrivent de remplacer au pied levé les professionnels?
Ah, moi j'ai une petite idée.
Ah
bah c'est peut-être pas forcément une très bonne idée. Je le dis quand même.
C'est même devenu un modèle économique, c'est dans l'aviation.
Eh bien voilà, quand vous demandez s'il y a un médecin.
Quand on demande s'il y a un médecin dans
l'avion. Voilà, donc c'était ça ma réponse.
Parce que pendant longtemps, les hôtesses de l'air étaient des infirmières.
Ah bon?
Et du coup, maintenant, 80%, ils ont fait des études, 80% des cas, il y a un médecin dans l'avion. Et donc, ils préfèrent demander un médecin dans 350 fois par jour.
Bien joué, il vous a bien piégé avec ça.
Et moi, j'avais la bonne réponse, ce qui ne sert à rien, mais j'avais la bonne réponse.
Oui, mais là, vous pouvez pas dire ça sans l'avoir dit.
Mais si, je l'ai dit.
Ça ne fonctionne pas.
Exactement.
Jean-Philippe Ballas.
Pardon, mais on est un peu loin de l'opéra, là.
Il y a d'ailleurs des médecins dans les salles de l'opéra. Et parfois, il y en a normalement qui est toujours là, mais on fait appel aussi à des... Moi, j'ai un ami qui regarde l'opéra et qui est chef de service à Pompidou. Il a dû faire un massage cardiaque et d'ailleurs, il a sauvé...
des choses qu'il y a.
Le spectateur.
Merci en tout cas, Jean-Philippe Ballas. Claire Chazal, on sait que vous dansez fort bien. Est-ce que vous avez déjà rêvé
fort
de cette scène?
Ah,
si, je vous le dis. Vous assistez à un ballet à l'Opéra Garnier. Soudain, le danseur qui porte la danseuse étoile dans une figure complexe rip sur un élément de décor, lâche sa partenaire en plein vol.
Oh putain de ta mère, salope!
Cheville foulée, on rallume les lumières, on vous propose de la remplacer au débeauté. Un rêve ou un cauchemar pour vous?
Un cauchemar. Non, je connais la difficulté, mais immense, de ce que font les danseurs, notamment ceux de l'Opéra de Paris. je sais dans, enfin, j'ai presque dans mon corps de ce que ça représente, de difficultés, d'efforts, de travail depuis toujours. Donc vraiment, non, c'est un cauchemar.
On la retrouve du lundi au vendredi à 20h20 sur France 5 et aussi le samedi à 22h20 dans Passage des Arts. Claire Chazal est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, certes, Claire Chazal, vous avez fait une belle carrière. Mais ne vous emballez pas pour autant. Présenter un journal regardé par des millions de téléspectateurs, interviewer des présidents de la République, c'est une chose. Mais remporter un quiz face à Eva Rock, voilà un défi d'une toute autre ampleur. Ça sera, je vous l'annonce, un test de rapidité. Oui, Eva ?
Saxophone, saxophone, saxophone.
Mais calmez, mais ça n'a pas commencé. Ok, saxophone, si ça peut la calmer.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. En compagnie d'un invité d'honneur, aujourd'hui c'est Claire Chazal qui nous accompagne. Vous la retrouvez tous les soirs dans Passage des Arts à 20h20 sur France 5 et le samedi soir à 22h20. D'où vient cet appétit pour la culture ? Vos parents, je crois, Claire Chazal, vous ont initié à la lecture. C'était des intellos, vos parents, tout est parti de là. Vous avez grandi dans un milieu favorable à la culture.
Mes parents, qui étaient eux-mêmes d'un milieu extrêmement modeste, s'étaient élevés, j'allais dire, dans l'échelle sociale grâce à leurs études. Ils sont devenus instituteurs l'un et l'autre, alors que vraiment, ils ne savaient à peine que le baccalauréat existait dans leur famille. Ils étaient à la maison, c'était pas du tout des mondains, ils sortaient peu, mais ils lisaient. Ma mère est devenue professeure de lettres, mon père ensuite haut fonctionnaire. Mais moi-même, je m'en suis aussi un petit peu émancipée. Et ce que j'ai aimé aller voir, pas forcément avec eux d'ailleurs, c'est des spectacles, les premiers spectacles de danse, notamment les premiers spectacles de Béjart. J'aurais évidemment adoré être danseuse, je ne l'ai pas été car je n'étais pas assez douée. Donc il y a peut-être cette frustration en moi qui m'a portée vers ça, vers cet art vivant.
Alors ma chère Claire Chazal, c'est un moment de l'émission rapidement devenu incontournable. Ça, le quiz de l'invité contre Eva Rock.
On ne sait jamais.
Là, instant culturel par excellence. Il est aussi parfois le théâtre de quiproquos douloureux. Comme pour moi hier, quand j'ai cru que notre invité, le comédien Jarry, me faisait des avances. Alors qu'en fait, non. J'aurais jamais pu présenter une émission de quiz comme Julien Lepers. Je ne sais pas du tout gérer mon émotion. On n'est pas fait pour ça, Jarry.
Non, on est fait pour autre chose.
Oui, mais il est trop tôt pour en parler.
Non, mais pour des émissions rigolotes.
Ah oui, d'accord, bien sûr. C'était un petit moment gênant. Bref, oublions ça et jouons. Aujourd'hui, puisqu'on a la chance de tenir une vraie journaliste, ce qui ne nous arrive pas souvent, on a décidé de faire un fake news ou pas fake news. Principe simple, à tour de rôle, je vous donne des infos. Vous me dites si c'est une vraie info ou si c'est totalement bidon. On commence avec vous, Claire Chazal. En Pennsylvanie, près de Philadelphie, la police recherche parmi les demandeurs d'asile, quelle que soit leur nationalité, des volontaires pour tester de nouvelles générations de tasers. Ceux qui participeront verront leur demande de régularisation étudiée en priorité. Mais... vrai ou faux ?
Dans une Amérique de Trump, on peut tout imaginer, mais plutôt faux.
Plutôt faux. Le raisonnement était bon. C'était le piège avec Trump. Par contre, la même police en Pennsylvanie recherche des volontaires pour boire de l'alcool. Le but, former les policiers aux procédures à adopter face à des personnes ivres. L'alcool est fourni par la police, mais les volontaires ne seront pas payés pour le boire. Dommage. Eva Rock, c'est à vous. À Toulouse, vendredi dernier, en prévision de manifestations de gilets jaunes, un menuisier a été chargé par une banque de placarder de grands panneaux de bois sur la vitrine pour la protéger. Problème, il a oublié une femme de ménage à l'intérieur et il est parti en week-end. Vrai ou faux ?
Ah, c'est... bah oui. Oui, pourquoi
c'est pas impossible.
Oui,
c'est
possible.
C'est vrai. Et oui.
La pauvre dame.
Heureusement, la dame prisonnière a crié depuis l'intérieur de la banque. La police a été appelée, le menuisier rappelé et la dame a été libérée tard dans la soirée. Attention, vous jouez toutes les deux, Claire Chazal, Eva Rock, une info, trois propositions. À vous de trouver celle qui est totalement vraie. Au Kazakhstan, au championnat du monde cadet de judo, la jeune Ayana mène son combat dans la catégorie des moins de 52 kilos, mais l'arbitre, intraitable, doit la disqualifier. Pour quelle raison ? 1. Elle a insulté son propre entraîneur et c'est interdit. 2. Elle a avalé volontairement une des lentilles de contact que portait son adversaire et qu'elle avait perdue. Ou 3. Elle a fait tomber son portable sur le tatami de son kimono.
Ah, alors ça s'est produit, mais c'était pas avec une jeune femme, c'était un judoka.
On vous demande pas une dissertation, on vous demande de nous donner la réponse.
Ça peut être l'insulte à son entraîneur, non ?
L'insulte à son entraîneur, pour Claire Chazal, Eva ?
J'aime bien l'histoire de la lentille de contact.
Vous aimez l'histoire de la lentille de contact ? Vous aimez l'histoire de l'insulte à son propre entraîneur ? Vous avez tort, toutes les deux ! Elle a fait tomber son portable sur le tatami. Et oui, c'était fin septembre. En mai dernier, c'était déjà arrivé à un judoka portugais. Là encore, la disqualification a été immédiate. Claire Chazal, avez-vous décelé la fake news ?
Oula.
À Nagakute, au Japon, une fondation de recherche sur la génétique a tenté sans succès de faire naître des zèbres blancs à rayures noires, alors qu'à l'état naturel, ils sont noirs à rayures blanches. Vrai ou faux ?
Bah faux. Ça, moi, je vois pas
l'intérêt.
Je vois pas l'intérêt. Parce qu'on aime bien le noir et l'ayure blanche, on aime beaucoup les zèbres. Et...
C'est très vrai, on ne voit pas l'intérêt. Il suffit de procéder par élimination pour remporter ce quiz. C'est faux, évidemment. Les zèbres sont noirs à rayures blanches car à l'état fœtal, ils n'ont pas de rayures. Par contre, des chercheurs d'un centre de recherche agricole ont bien peint des bandes blanches sur des vaches noires et il a été démontré que ces dernières ont deux fois moins d'insectes qui se posent sur elles. C'est pour ça que les zèbres, en fait, ont des rayures. C'est pour éviter les insectes. La nature est bien faite. Fascinante nature. Eva Rock, une petite dernière pour la route. Été 2018, Megan vit à Baltimore et elle va se marier pour la deuxième fois. Un enfant est même en route. Petite particularité, son futur époux n'est autre que le DJ qui s'est occupé de son premier mariage. Vrai ou faux ? Une question qui, me signale-t-on, vaut 0 point.
Ah bah oui, parce que ça n'a aucun intérêt. On va dire que oui, c'était le DJ de son mariage.
Exactement. Marc et Meghan ont 23 ans d'écart et si vous voulez suivre au quotidien leur couple, eh bien allez sur leur page Instagram We Are Marc and Meghan et je suis sûr qu'on va tous le faire après l'émission.
Bien sûr.
Qui remporte ce quiz ? C'est Claire Chazal.
Mais oui.
Ça me fait plaisir. Claire Chazal remporte le quiz comme tous nos invités
comme
avant.
Tous
c'est
les
ça
invités.
Est, c'est ça qui est fort.
C'est fort.
Alors moi je précise que j'ai un compte Instagram.
Oui.
Pardon de
ce officiel.
Que je n'ai jamais eu de ma vie
c'est
entière.
C'est vrai, c'est nouveau ?
Oui, il s'appelle Claire Chazal officiel, je le dis, car il n'est que artistique, culturel, rien de personnel naturellement, et je ne poste que des choses que j'ai aimées, voir, exposition, théâtre, cinéma.
Vous posterez peut-être une petite photo avec moi tout à l'heure.
C'est pas de la culture.
C'est pas de la culture. Merci, merci.
C'est pas de la culture.
Bah, c'est pas de la culture, c'est des médias. C'est... Non.
Vous la retrouvez tous les soirs sur France 5, ou alors vous pouvez regarder M6 aussi. Claire Chazal passe l'après-midi sur Europe 1. À suivre, longtemps, les meilleures séries télé se sont vendues comme des petits pains, notamment à TF1, simplement par la qualité de leur dialogue ou la force de leur scénario.
Plombé, trouvez-moi un téléphone et lancez un appel.
Désormais, avec la concurrence des plateformes de VOD, la concurrence s'est un peu développée et tout se joue chaque année au MIPCOM, le grand marché de l'audiovisuel qui se tient en ce moment à Cannes. Notre correspondant s'y est immiscé pour nous révéler les séries et les programmes phares qui vous attendent en 2020. On lui demandera notamment si ce projet de biopic de Bruel avec Eva Rock se fait ou pas finalement.
Qu'est-ce que tu deviens ?
Il serait dommage qu'il ne se fasse pas. On en parle après Calogero et Passy face à la mer sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Calogero et Passy, c'était face à la mer sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures où notre inextinguible soif de savoir et notre irrépressible allégresse ne se font jamais au détriment de la clarté. C'est notre invitée Claire Chazal qui avait participé au pilote de cette émission cet été, qui m'avait dit « Mathieu, rigoler c'est bien, mais attention, l'écueil de base à éviter pour une émission de bande, c'est de tous parler ensemble. N'oublie jamais que l'essentiel dans ce métier, c'est que le rendu antenne soit propre. Je crois qu'au vu de l'émission d'hier, Claire, on peut dire que j'ai bien bossé. »
Donc l'histoire.
Mais comment j'en écoute en
entier ?
Je me sens très très bien.
C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je vous invite, ma chère Claire, au MIPCOM. Et oui, tout ça a été réalisé quasiment sans montage, à part la musique. Hein. On n'a rien compris à cette séquence. Le grand marché de l'audiovisuel de Cannes, où naissent les séries de demain. Le MIPCOM rassemble à Cannes cette semaine près de 14 000 participants venus de 110 pays. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur. Cannes, c'est un peu chez vous. Le champagne, les petits fours, les paillettes, c'est votre quotidien. Mais nous, les consommateurs de programmes télé, de séries et autres produits VOD, qu'allons-nous nous mettre sous la dent dans les prochains mois ?
Alors ça dépend Mathieu, ça dépend quelle télé ou plateforme vous allez choisir. En France on reste plutôt soft, à l'étranger ce sera à vous de juger dans un instant. Mmh. Alors plusieurs tendances se dégagent cette année, authenticité, écologie, violence et fantastique, voilà les ingrédients du programme gagnant. Non, pas mélangé. Ce sont les ingrédients du programme gagnant, la recette du succès selon Glens, un institut médiamétrie. On se bouscule chaque année à leur conférence ici au MIPCOM et voilà ce que les jeunes adultes, la cible principale de l'industrie audiovisuelle, ont envie de voir sur leurs écrans, télé, tablettes et smartphones. D'abord, bonne nouvelle, ils ont envie d'être éduquer, d'apprendre, de découvrir par exemple des nouveaux métiers. En Norvège, Fishing Fortune plonge les téléspectateurs dans l'univers
des poissons.
Des métiers de la pisciculture.
Ça, on n'y pense pas assez, les métiers de la pisciculture.
Et on découvre comment ces travailleurs ordinaires y trouvent leur bonheur. Cette série documentaire a permis à la chaîne qui a lancé le programme de multiplier par 2 son audience des 15-24 ans. Seconde tendance, alors plus trash, les programmes rythmés qui tiennent en haleine. Ce sont des programmes violents ou fantastiques, des fictions, des séries ou des émissions comme Zombody Save Me, une compétition en Nouvelle-Zélande où 8 candidats doivent survivre face à des zombies.
In a forest in the depths of New Zealand, the ultimate zombie survival
challenge is taking place.
Ouh, c'est plutôt terrifiant, hein. La production a 1000 paquets hein, sur le maquillage. Les candidats doivent construire un camp pour se protéger, passer des épreuves le jour, la nuit. Mais on est dans un jeu à la différence de ce programme néerlandais Cocaine Trails où des jeunes ados, oui, et adultes, consommateurs de cocaïne, sont embarqués dans une virée en Colombie dans l'enfer du narcotrafic. À leur retour, la plupart décrochent. Alors, c'est pas Pékin Express, hein. On voyage certes, mais le programme questionne surtout nous, les Français.
Et la troisième tendance, donc Frédéric, c'est l'intérêt des millennials pour les questions liées à l'écologie.
Oui, à des causes justes. Hein. Le consommateur est à la recherche de sens. De nombreux documentaires, magazines d'information sont proposés, mais aussi des divertissements ou des fictions. L'écologie est aussi traitée sous un angle plus positif et amusant. The Masters au Danemark voit s'affronter des couples de candidats autour du thème du recyclage. Et puis il y a cette émission tout droit venue d'Angleterre, Meet the Family, programme dans lequel une famille, grosse consommatrice de viande, hein, c'est un petit peu, je veux dire, votre famille, hein, Mathieu.
Oui, tout à fait.
Voilà, se voit confier pendant plusieurs semaines de jeunes animaux, poulets, veaux, cochons, agneaux.
Ouais, ils peuvent pas les manger après.
Bah, j'imagine que vous avez compris la finalité.
Ouais. Et
bah,
ils les bouffent.
Non, ils les mangent
pas. Bouffez-le.
Non,
les membres de la famille devront choisir.
Ah,
ils devront choisir entre devenir végétarien, hein, c'est plutôt sympa, ou accepter de voir mourir sous leurs yeux leurs petits amis. Et évidemment, de les déguster au dîner.
Chez les Noël, on a choisi, je peux vous dire déjà.
Alors, aucune chaîne française n'a acheté le programme. Pareil pour le voyage en Colombie. On reste encore, je vous le disais, très soft en France.
Merci beaucoup Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue. Notre invitée Claire Chazal, grande amatrice de danse, apprécie-t-elle l'émission autant que Jarry, notre invitée d'hier, qui s'exclamait carrément.
Ouais, ça donne envie de faire un porté avec Eva.
Oui, mais non. Oui, non, c'est pas une bonne idée.
Ah merde.
Ah non, voilà. Pas une bonne idée. À suivre, pas de portée, mais deux nouveaux compétiteurs, dont un est un des plus grands fans vivants de Claire Chazal.
Ah, comme par hasard.
Non, Jean-Philippe, on avait dit fair play, Jean-Philippe. À tout de suite.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Comme notre invité d'hier, Jarry, vous m'écoutez tous les jours et plus vous m'écoutez, plus vous me trouvez.
Barbu et un peu gros et poilu.
Non, super sympa, super sympa. Chaque après-midi, vous le savez désormais, on joue à noter les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui cherchent à piquer votre curiosité sous l'œil souverain d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est Claire Chazal qui nous accompagne. Claire, que vous retrouvez tous les soirs sur France 5 à 20h20 dans Passage des Arts. À suivre, deux nouveaux journalistes en compétition. On reviendra sur une image qui a marqué l'histoire du sport il y a 51 ans, jour pour jour. Deux athlètes levaient le poing sur un podium olympique pour défendre la cause des Afro-Américains. Et puis, est-ce encore le moment d'acheter ? 2019 restera en tout cas une année record pour l'immobilier en France. Pourtant, moi qui vends en ce moment, je peux vous dire que les clients sont exigeants.
Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis ?
Oui, mon donjon. Où sont mes ours et mon pont-levis ? Mes oubliettes, ils sont toujours intactes.
Eh bien, moi, j'ai fait ma carrière en Europe 1, moi, pas TF1. Oh, mais tiens, il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes de la rédac continue avec Claire Chazal. Deux heures pour vous épauler sur le chemin du retour et vous aider à ne pas ruminer les mauvais résultats de votre entreprise, même si c'est vrai, l'allocution de votre patron ce matin n'était pas vraiment rassurante.
Cette année a été catastrophique, mais tout n'est pas perdu pour autant. Puisque je suis en mesure de vous annoncer que le self va être entièrement redécoré. Ça va redonner un sérieux coup de fouet pour redynamiser les forces vives de la boîte.
Je ne révélerai pas de quelle entreprise il est question dans cet extrait sonore, mais c'est vrai que depuis que le self est refait, on y va plus souvent. Bref, eux aussi continuent d'y croire. Claire Chazal vous présente nos deux derniers concurrents en lice aujourd'hui. À ma gauche, il a une aversion pour la défaite qui fait de lui un compétiteur redoutable, prêt à tout. Comme par exemple à essayer de gruger en tentant d'apercevoir les résultats du vote sur l'écran des Varocs.
Le résultat du vote,
c'est toi qui as gagné.
Ah mais ne regardez pas.
C'est pas moi, c'est Dutheil.
C'est lui qui me demande.
Le cas échéant, il n'hésite pas à dénoncer ses collègues. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je crois que vous êtes très ému d'être là aujourd'hui.
Ah bah oui, moi je suis totalement fan de Claire Chazal.
En entrant dans le studio, on va dévoiler ce que vous avez dit. Claire, elle s'était éclipsée une minute. Vous avez... C'est son parfum qui sent
non,
si bon.
Non, j'ai pas dit ça.
Si vous avez dit ça.
J'ai dit ça sent terriblement bon. Est-ce que c'est son parfum ?
Oui, vous êtes excité comme une puce. Vous êtes néanmoins le chef du service éco d'Europe
1,
ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, ensemble, on fait un point très sérieux, un point immobilier.
Oui, parce que je sais que ça vous passionne. Donc, vu que vous m'avez donné un point la dernière fois, je me suis dit que vous pouviez renouveler l'expérience. Il faut voir qu'en 2019, il ne se sera jamais vendu autant d'appartements et de maisons dans l'ancien de toute l'histoire. ce sera un record total. On n'a jamais acheté autant de biens immobiliers. Pourquoi ? Et est-ce que ça va durer ? On vous explique ça.
À ses côtés, Claire Chazal, un autre compétiteur sans pitié, qui sait parfaitement qu'il n'a rien de plus efficace pour déstabiliser un adversaire que de lui exprimer son mépris. Pour une fois, Jérôme, tâchons d'être sport. Souvenons-nous de l'état d'esprit de Coubertin. Emmanuel Dutheil est un bon journaliste.
J'espère que je finirai pas comme lui, hein. Pardon.
j'aurais essayé. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour Claire, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous êtes notre expert sport et aujourd'hui c'est une date anniversaire.
Oui, il y a 51 ans, presque jour pour jour, je vais vous ramener le 16 octobre 1968 pour vous parler d'un 200 mètres olympique à Mexico qui est resté dans l'histoire et qui a donné naissance à l'image, l'une des images peut-être la plus connue de l'histoire du sport. Un podium olympique avec deux athlètes sprinteurs noirs américains qui lèvent le poing en contestation contre la ségrégation raciale, Tommy Smith, John Carlos. Mais ce jour-là sur le podium, il y avait aussi un troisième homme. Et pour lui aussi, je vous mets au défi de me donner son nom, ne serait-ce que de me donner son
non,
nom.
Non, j'y arriverai pas.
Je vous raconterai que pour lui aussi, ce jour-là, sa vie a complètement changé.
L'anniversaire d'un événement sportif historique ou bien les records fous du marché de l'immobilier, quel sujet intéressera le plus notre invité Claire Chazal, que vous retrouvez tous les soirs sur France 5 à 20h20 dans Passage des Arts. Nous le saurons peu avant 18h. D'ici là, on continue d'apprendre à mieux connaître Claire Chazal, présentatrice évidemment des journaux de week-end de TF1 pendant deux décennies. Ça fait maintenant 4 ans que vous avez quitté TF1. Alors déjà, on s'arrête là-dessus. Quand j'ai vu ça dans mon dossier, 4 ans, j'ai l'impression que c'est hier que vous avez quitté le journal. Vous avez cette impression ? Ça vous paraît loin ou ça vous paraît hier ?
Non, ça me paraît vraiment... Enfin, très souvent, je l'oublie hein, et je regarde, j'avoue, un peu moins les journaux de 20h. Mais parfois, ça me revient et notamment à l'occasion d'événements un peu dramatiques ou qui, j'allais dire, suscitent une émotion collective. Et là, je me projette et je me dis que j'aimerais vraiment être à l'antenne. Par exemple, l'incendie de Notre-Dame qui est la dernière qui a suscité des éditions spéciales. Et évidemment, ça m'aurait intéressé, oui.
Pour les gens, en tout cas, qu'on est allé rencontrer dans la rue, c'est comme si c'était hier.
Claire Chazal.
Chic, je dirais, bien apprêtée, bien coiffée.
Elle est blonde, elle est mince, elle est jolie.
C'est une femme d'une cinquantaine d'années, 1m65, qui doit peser une cinquantaine de kilos.
Physiquement, elle est sympathique.
Bah, tout le temps, à chaque fois, 20h à Claire Chazal.
Je sais plus si c'est la une ou la deux, mais c'était la une.
Quelquefois, on la voit quand même sur Paris Match. Bah voilà, bon.
À la fois déterminée, sensible, hein. Jamais assez.
Vous nous manquez, Madame Chazal, revenez. Ouais, franchement.
J'adore Claire Chazal.
En plus, la nouvelle.
Voilà qui n'est pas gentil pour Anne-Claire Coudray, qu'on avait reçue ici, qui est une excellente journaliste aussi.
Oui, qu'on aime beaucoup.
On l'aime. Vous regardez parfois encore son JT ?
Oui, j'avoue que moi, je suis restée amie avec une ou deux personnes, vraiment très amie avec une ou deux personnes de TF1, et qui d'ailleurs construit le journal aujourd'hui. Donc je le regarde de temps en temps, et je trouve qu'Anne-Claire fait extrêmement bien ce travail.
Voilà qui est fair play, pas comme nos journalistes ici.
Mais c'est la vérité, hein, c'est ce que je pense vraiment.
Est-ce que vous êtes restée accro à l'info quand on a baigné comme ça dans l'info tous les quotidiennes comme ça pendant plus de 20 ans. Est-ce que aujourd'hui vous êtes toujours, je sais pas, comment vous consommez l'info avec votre smartphone? Vous
Alors,
avez des alertes?
Bien
vous êtes...
sûr que d'abord j'en parle sur France Info parce que les invités que j'ai, qui sont des philosophes, des romanciers, etc., je leur demande de commenter l'actualité de la semaine. Donc j'ai une obligation de toute façon. Et puis bien sûr que j'essaye de me tenir au courant de tout. Et moi je m'informe par la radio. Principalement. J'aime beaucoup la radio. D'abord, ça me permet de faire des choses en même temps, de bouger le matin, parce que moi, je suis assez active. Donc, je transporte mon petit poste de radio. Je m'informe comme ça. Voilà. Et évidemment, la lecture du Monde, principalement, là, sur mon smartphone, oui.
Et oui, elle vit avec son temps aussi. Claire Chazal est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Emmanuel Dutheil, Jérôme Lacroix sont à mes côtés. À suivre, vous songez à acheter ? Votre banquier vous a conseillé d'investir dans la pierre. 2019 a été en tout cas l'année de tous les records pour l'immobilier en France. Le chef du service éco s'est déplacé en personne pour vous en parler alors qu'il avait un golf à Vaucresson. Emmanuel Dutheil sera-t-il élu chroniqueur du jour ? En tout cas, ses collègues ne lui feront pas de cadeau. Ici, le moindre faux pas se paye cash, comme avait pu le constater Manu mardi alors qu'il nous présentait un livre.
Alors, ça s'appelle, je le monte correctement, je sais pas trop bien où est la caméra, mais a priori c'est là.
Surtout à la radio.
À tout de suite, Emmanuel.
Incroyable. Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage. Continue 2 heures pour étancher votre légitime soif de savoir sans pour autant oublier vos précieux zygomatiques qui ont besoin d'exercice après une rude journée. Quoi de mieux pour les tonifier qu'un affrontement musclé entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 ? Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus captivé. Sous l'œil de notre invité arbitre Claire Chazal, s'avance à présent un redoutable challenger. Charismatique chef du service éco d'Europe 1, il sait ajouter à la froideur des chiffres un zeste d'humour haut de gamme pour emporter l'adhésion du public et de l'invité.
À un moment, c'est vrai que semble-t-il
semble-t-il, un tout petit peu confondu la caisse de Nissan avec sa caisse personnelle. Et je parle pas de voiture, hein, je parle d'argent.
C'est le problème de passer si vite de l'écho à l'humour. Parfois, on cale un peu. Et ensuite, c'est l'enchaînement terrible, la spirale de la loose. Vous perdez toute crédibilité aux yeux de l'invité, en l'occurrence Pef, qui en fin d'émission lâchera, cruel.
Ouais, Emmanuel Duteil, on va lui mettre un petit 3. Il va pas nous faire chier. Hein.
Emmanuel Duteil, je sens que vous allez rebondir aujourd'hui face à Claire Chazal.
Bah oui, je vais tout essayer.
On le disait, en 2019, on vit un moment historique, Emmanuel. Il ne s'est jamais vendu autant de maisons ou d'appartements dans l'ancien que cette année.
Ouais, alors déjà, j'ai choisi une chronique purement économique parce que vous avez commencé par l'économie.
Ah, oui.
Bah oui, moi je regarde en boucle le tout premier point bourse passé dans le journal
et
à l'époque.
Dans la presse écrite, d'abord.
Donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrive avec un vrai sujet économique pour vous ramener à vos premiers amours. Et vaut mieux que je fasse ça que la danse parce que je suis dans tous les cas beaucoup plus doué là-dessus. Bon, alors de quoi on parle? On parle effectivement d'immobilier puisque en 2019, il ne se sera jamais vendu autant d'appartements ou de maisons. On va en vendre un peu plus d'un million. Pour comparer, les bonnes années, si on remonte aux alentours de 2000, on en vendait 800 à 900 000. Alors ça s'explique comment? C'est toujours la même raison, ça s'explique par le fait que les taux immobiliers sont extrêmement bas. Eux aussi, hein, ils sont à des niveaux records. On en parle beaucoup lors de déjeuner ou ce genre de choses avec nos amis, mais en ce moment, un bon dossier pour un couple, on va dire,
ah, sur 25 ans.
Voilà.
Sur 25
ans,
je note.
Un bon dossier pour un couple sur 25 ans, vous arrivez très facilement à un tout petit peu plus d'un pour cent, effectivement.
Ah, oui.
Donc on est là aussi sur des choses.
25 ans.
Exactement. On est sur des choses.
Un coup de fil. Ouais.
Donc, faut rappeler votre banquier Mathieu, mais on est sur des choses totalement historique. Et c'est ça véritablement qui explique que le marché en ce moment se porte bien, parce que quand les taux sont bas, ça nous permet d'acheter plus. Et surtout, ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut acheter sur des durées plus longues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques acceptent des prêts sur 25 et même sur 30 ans, sans qu'on ait trop une surcote. À l'époque, on n'allait pas trop sur 25 parce qu'on savait que ça nous coûtait beaucoup plus cher. Ce qui est aussi un élément extrêmement intéressant, c'est quand on regarde le marché immobilier, et ça pourrait paraître pas tout à fait logique, on achète de plus en plus jeune. C'est-à-dire que, y compris dans les grandes métropoles où les prix sont chers, grâce à cette baisse des taux, le premier achat se fait maintenant avant la trentaine. C'est le conseil supérieur du notariat qui a donné ces informations il y a quelques jours. En revanche, il y a un point extrêmement intéressant, c'est qu'en ce moment, le marché est totalement fou et totalement déséquilibré.
Est-ce qu'il y a une bulle? C'est ça qui me fait peur.
Je crois qu'il est en train d'essayer d'acheter un appartement.
Les prix flambent.
Vous arrivez chez le vendeur et la première chose qu'on vous dit, c'est achetez tout de suite parce que demain, il est vendu.
Oui.
Et bien là,
moi,
revanche,
c'est ce qu'on m'a dit.
Voilà. Mais les notaires disent, faites extrêmement attention puisque c'est dans ces moments-là qu'on achète n'importe quoi et il ne faut jamais oublier qu'un marché peut se retourner.
Et le marché est dynamique partout?
Alors non, et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant quand on regarde. Il est extrêmement dynamique dans les grandes métropoles. Il y a 22 métropoles en France, donc bien évidemment Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, tout ça, c'est des villes où ça cartonne. Mais quand vous regardez de l'autre côté, notamment dans les zones rurales, c'est la catastrophe puisque là, l'immobilier baisse. Et il y a même quelque chose qu'on appelle la diagonale blanche dans le monde de l'immobilier. Ça part grosso modo du milieu des Hauts-de-France pour arriver assez nettement au-dessus de Lyon, mais malgré tout, vous tirez comme c'est une diagonale. Il y en a même qui, de façon pas très gentille, appellent ça la diagonale du vide, parce que là, dans ces zones-là, la plupart des gens qui ont acquis un bien immobilier, ils payent plus de remboursement que ce que vaut véritablement leur bien immobilier. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est quand on nous dit la mobilité, bah pourquoi ces gens qui n'ont pas de travail là-bas, ils n'iraient pas de l'autre côté? Allez vendre votre bien quand ça vaut moins ce que vous avez payé. Donc ça repose aussi la question de la mobilité. En revanche, ce qui est là sûr, c'est que à Paris, là aussi, on est sur des choses totalement historiques, hein, un tiers de prix qui ont augmenté en 10 ans. Et à Bordeaux, c'est un exemple qui n'est jamais arrivé de l'histoire de l'immobilier en France. 40% d'augmentation en 3 ans sur les prix.
40%
avec l'arrivée du TGV. Hein.
Donc c'est trop tard pour investir à Bordeaux.
C'est fini.
Vous parliez des taux d'intérêt. Ils vont rester bas longtemps, ces taux d'intérêt?
Alors, si j'avais une boule de cristal là-dessus, je serais vraiment très très riche. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que j'ai déjeuné avec l'un des plus grands patrons d'une banque vendredi. Lui nous a dit, pendant plusieurs années encore, les taux d'intérêt vont rester extrêmement bas. Pourquoi? Parce que nos taux d'intérêt dépendent de ce qu'on appelle les taux directeurs des banques centrales. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais ils sont à des niveaux historiquement bas, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et qu'est-ce qu'ont dit les banquiers centraux, dont Christine Lagarde, qui est notre future banquière centrale de la BCE? Ils ont dit « ça va rester bas très très longtemps ». Donc surtout, ne vous précipitez pas en ce moment à acheter, puisque si votre principal moteur pour acheter, c'est le fait que les taux soient bas, ça va le rester. Donc, vous avez un petit peu de temps et vous pouvez choisir.
C'est bien. Il est pas mal, mon petit Duteil, Claire Chazal. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, bon, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui, évidemment, pose la question aussi du... Enfin, c'est évidemment positif pour l'économie, les taux d'intérêt bas, mais pour les deux secteurs bancaires et assurances, on est un peu inquiet quand même, parce qu'on est même dans des taux négatifs à certains moments.
Par exemple, si en ce moment, il y a une rumeur sur le fait qu'HSBC va vendre sa banque de détail en France, c'est uniquement parce que les banques n'arrivent pas à rentabiliser aujourd'hui leur réseau bancaire.
Vous en êtes bien sorti, Emmanuel Dutheil.
Oui, vous avez vu, j'apporte encore une petite info.
Oui, en plus, l'info en plus, c'est la totale, la complète, la jambon à fromage du journalisme. Bravo, Emmanuel Dutheil.
Europe 1.
À suivre, on a tous en tête l'image de ces deux athlètes noirs, point levé, tête baissée sur le podium des JO de 68 pour défendre la cause des Afro-Américains. C'était il y a pile 51 ans. Notre expert sport, Jérôme Lacroix, revient sur l'histoire de cette photo juste après...
Un petit pipi.
Oui, mais surtout une parenthèse musicale, Jérôme. Ça nous intéresse pas. Voici Clara Luciani, nue sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage bat son plein. Deux heures d'allégresse informative qui vous plongera dans le même état qu'une soirée Space Cake chez Doc Gynéco.
Ou c'est moi qui hallucine, ou je viens de voir Superman.
Sauf que chez nous, c'est légal. À nos côtés cet après-midi, pour noter les journalistes de la rédaction d'Europe 1, celle qui a démarré sur Europe 1 avant de devenir la journaliste la plus célèbre de France, Claire Chazal, aux commandes tous les soirs sur France 5 de Passage des Arts. Un tour d'horizon culturel en compagnie, on le disait, d'un invité. Qui vous avez ce soir, par exemple, Claire Chazal ?
Alors, c'est un petit peu notre fierté, c'est effectivement la qualité des invités et la diversité. Hier, par exemple, nous avions Xavier Dolan pour son très beau film, Maxime et Mathias, enfin Mathias et Maxime. Et ce soir, on reçoit le plasticien et sculpteur Jean-Michel Autoniel, qui évidemment, c'est l'ouverture de la FIAC, il a ses œuvres à la FIAC. Il a notamment fait rentrer au Louvre, mais de façon pérenne, et c'est un peu exceptionnel, parce que c'est un artiste contemporain, ces 6 tableaux qui représentent des roses qui ont été installés au Cours Puget au milieu des sculptures. Et demain, Vincent Cassel pour le film absolument formidable qui s'appelle Hors Normes, dont vous avez forcément parlé, Toledo Nonakash. Et puis la semaine prochaine, Christiane Taubira notamment, par exemple, enfin je pense à ça, parce qu'elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Nuit d'épines, sur lequel elle raconte à la fois ses nuits sombres et difficiles personnelles, la mort de sa mère, et bien sûr ses nuits professionnelles, l'attentat du Bataclan, la discussion sur le mariage pour tous, tout ce qu'il a, pour lequel elle s'est totalement investie.
Alors vous, Claire Chazal, qui aimez tant la culture, vous avez déjà joué dans des films, souvent en interprétant votre propre rôle, mais aussi dans un téléfilm où vous incarniez un personnage totalement fictif. Est-ce que ça vous tenterait une carrière de comédienne ? Est-ce qu'on vous le propose souvent ?
Moi, j'admire beaucoup les comédiens de théâtre, de cinéma. Ce n'est pas mon métier. Je le porte très haut, donc ce n'est pas mon métier. Je peux éventuellement faire un petit rôle dans un coin de film ou de série, c'est vrai.
Mais
c'est un métier difficile. Ça m'amuse. Par exemple, j'avais fait un tout petit bout de choses avec Yvan Attal dans Ils sont partout. Je vais le recevoir avec Charlotte Gainsbourg la semaine prochaine pour son film Un chien stupide. Et c'est formidable d'ailleurs. Donc ça m'amuse. Mais c'est pas mon métier. Voilà.
Savez-vous, Claire Chazal, que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous désormais en moyenne 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou des plateformes de VOD à laquelle on est abonné, en se disputant parfois avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder. 17 minutes de perdu, nous on vous fait gagner 17 minutes. Alors Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ?
Alors, cher Mathieu, cher Claire, je déteste les discours qui tendent à affirmer que sur YouTube, il n'y a que du caca et que nos ados, vous savez, et que nos ados, voilà, pour être poli, et que les ados ne regardent que du caca sur leurs écrans.
Et caca sur leurs écrans, cette phrase va tellement tourner.
Je sais bien. Mais parmi les chaînes YouTube que je vous recommande, il y a celle de Julien Méniel qui s'appelle Dont encore, DTC.
Visiblement, Emmanuel Dutheil connaît.
Oui, parce que c'est effectivement très très bien fait.
C'est très bien fait. Il est ex-infirmier, il est journaliste et il apporte des réponses claires à des questions qui sont liées à la santé. Alors, est-ce que les jeux vidéo rendent épileptiques ? Comment les daltoniens voient les couleurs ? Comment faire passer une gueule de bois ? Et le succès de la chaîne est tel que France Télévisions a fait appel à Julien Méniel pour une série de documentaires qui est destinée à la plateforme Slash dont je vous parle régulièrement, qui est une plateforme gratuite. Et la série est intitulée « Toutes les mêmes ». C'est 8 épisodes de 10 minutes pour partir à la rencontre d'une personne handicapée. Alors je vais vous parler notamment de Ophélie. Elle a perdu la vue à l'âge de 19 ans et pourtant elle est peintre et photographe. Julien, lui de son côté, a des questions très concrètes à lui poser. Comment, par exemple, marche-t-on dans une rue pavée avec une canne ?
Mais c'est pas chiant les pavés avec la
canne ? Justement, je me repère comme ça. Il y a différents pavés.
Okay.
Il y en a qui sont plus larges, il y en a qui sont plus ressortis au niveau du sol, donc ça dépend.
Ah, moi, il y a une question que je me pose toujours avec la canne.
Ouais.
C'est pas pénible avec les crottes de chien ?
Et ben, le truc qui est cool, c'est que c'est la canne qui prend la côte, ouais, et c'est pas
ouais.
au pied.
Bah ouais, mais ouais.
Voilà, mais sur le coup, tu mets quand même les doigts dans la merde.
Bah ouais.
Alors, vous venez de l'entendre, c'est quand même fait avec intelligence et délicatesse, parce que Julien Méniel, en fait, il recueille la parole de ces personnes qui sont toutes jeunes et toutes combatives, mais avec franchise, en fait, avec une
humanité,
exactement. Pernell, par exemple, qu'il rencontre, elle a pris une méningite, elle a été amputée des quatre membres. C'est une fille très belle, passionnée de sport, elle s'est mise au surf, et entre deux sourires, écoutez bien, elle raconte les remarques totalement idiotes qu'elle peut entendre au quotidien.
Ah, les éternelles réflexions... bah ça va, t'es belle pour une handicapée, wow. Ou tu vois. Ça c'est...
Yes.
Voilà, ça ouais. c'est... Bon bah, salut.
Au revoir.
Et tous ces témoignages ont en commun deux traits de caractère, un tempérament fort et beaucoup, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. C'est une excellente série documentaire qui s'appelle Toutes les Mêmes et vous la voyez gratuitement sur Slash TV.
Et bien voilà, 17 minutes de gagner une fois de plus, un programme qui a reçu en plus le label Dutheil, ce qui n'est pas rien. Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, il a la rigueur d'un sportif de haut niveau. Il aime quand tout est carré, c'est pourquoi il adore venir dans notre émission.
C'est toujours un bordel.
L'exigeant Jérôme Lacroix revient sur une photo qui a pile 51 ans, une des plus célèbres du XXe siècle. Deux athlètes faisaient le signe des Black Panthers sur un podium olympique. C'était en 68. Eva, un souvenir de 68?
Ça sentait la beuh de partout.
Oui, c'est pas le sujet, bref.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'infos sérieuses nappées d'une couche d'humour fin. Enfin, d'une couche d'humour, quoi. 2 heures également pour, comme le dit élégamment la DRH d'Europe 1, trier le bon grain de livret parmi les journalistes de la rédaction. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter. Et notre invité d'honneur, Claire Chazal, tranchera. Ayez confiance en vous, Emmanuel Dutheil. Claire Chazal, les férus de culture et de sortie vous retrouvent chaque soir sur France 5 à 20h20 dans Passage des Arts. On continue d'en parler, mais le moment est venu d'accueillir notre dernier journaliste en compétition cet après-midi. Un journaliste qui part, cela dit, avec un léger handicap. Vous vous souvenez tous du personnage de Michel à moitié.
Goûte, maman.
Michel à moitié chante à moitié les plus grands succès de Claude François.
Le lundi.
Eh bien, Europe 1 est fier de vous présenter son fils, Jérôme à demi.
T'as vraiment le sentiment que... Enfin, après, moi, je trouve ça, comment dire, je vois pas, il y a un reflet pile sur la... Après, c'est vrai qu'il y a un peu le côté...
Mais bon. Ça en fout. Vous nous rendez fous, Jérôme Lacroix. Terminé, une phrase, c'est pas compliqué.
Je suis un happening à moi tout seul.
Ah oui, vraiment.
Le bon se lève à minuit et demi, hein. Il est encore là l'après-midi pour
c'est
vous.
Vrai, c'est ouais. vrai. Bon, Jérôme Lacroix,
je vous aime.
Aujourd'hui, c'est un anniversaire que vous.
Oui. Je n'avais pas anticipé celle-ci. C'est vrai, je vous ramène, il y a 51 ans, presque jour pour jour, nous sommes le 16 octobre 1968. Finale olympique du 200 mètres JO de Mexico. Ce jour-là, l'Américain Tommy Smith est champion olympique. Et la course, on ne le sait pas encore à ce moment-là, va donner naissance à l'image la plus célèbre de toute l'histoire du sport. Cette image, c'est celle-ci. Vous la voyez si vous êtes avec nous sur Europe1.fr, sinon bien sûr je vous la décris. C'est le podium qui suit cette course. Tommy Smith, médaille d'or, et John Carlos, médaille de bronze. Deux sprinteurs noirs américains lèvent chacun un point ganté de noir au moment où retentit l'hymne américain. 400 millions de téléspectateurs voient ce geste de protestation contre la ségrégation raciale aux États-Unis, c'est passé à la postérité. Mais moi, je voulais vous parler cet après-midi du troisième homme de la photo, le médaillé d'argent. Alors, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Peter Norman. Il est australien, il a 26 ans, et après ce jour, sa vie de sportif de haut niveau, elle est terminée.
Mais pourtant, lui, il ne fait aucun signe de protestation.
Détrompez-vous, il porte à son survêtement un badge signé Olympic Project for Human Rights, le projet olympique pour les droits de l'homme. Le mouvement pour les droits civiques né quelques mois plus tôt dans une Amérique où Martin Luther King vient d'être assassiné. Le mouvement appelait les athlètes afro-américains à boycotter ces Jeux olympiques. D'ailleurs, Peter Norman, il a pris une part active dans la scène de ce célébrissime cliché. Une scène, alors faut le savoir, elle a été improvisée quelques minutes avant le podium. On décide de lever le point, il faudrait un gant noir. Tommy Smith avait avec lui une paire de gants, mais pas John Carlos, l'autre américain médaillé. Peter Norman, c'est lui qui leur suggère d'en enfiler un chacun. Par la suite, des années durant, les deux Américains, on a beaucoup écrit leur histoire, recevront des régulières menaces de mort, ils ne courront plus jamais pour leur pays, bannis. Eh bien, il en sera de même pour Peter Norman, dont la protestation ce jour-là cible aussi son pays, le sort des aborigènes australiens et la politique migratoire de l'époque en Australie qui privilégiait l'immigration européenne. L'Australie va lui faire payer.
Il est lui aussi exclu de son sport national.
Alors, pas officiellement, mais c'est presque pire. En fait, on va tout faire pour l'effacer des mémoires. Il ne sera pas sélectionné pour les Jeux suivants, 72 à Munich. Il disparaît du paysage sportif et même de certains livres d'histoire. Il ne figure pas, par exemple, dans un ouvrage de 1999 consacré aux 100 plus grands sportifs australiens du XXe siècle. Il ne sera pas non plus invité au JO de 2000 qui se déroule chez lui à Sydney. Sa vie personnelle vole en éclats, divorce, alcool. Il contracte même une gangrène dans les années 80. Il échappe de très peu à l'amputation d'une jambe. Et c'est en situation comme ça de paria qu'il mourra en 2006 d'une crise cardiaque. Il a 64 ans. Ses deux amis, Tommy Smith et John Carlos, traversent alors le monde. Ce sont eux qui porteront son cercueil le jour de l'enterrement.
Mais ses héritiers vont se battre ensuite pour sa réhabilitation.
Son neveu, principalement, via des interviews, un documentaire très fort. Cette réhabilitation, elle intervient 44 ans après le podium de Mexico 2012 et le discours au Parlement du député Andrew Leff. L'histoire a donné raison à Peter Norman, a-t-il dit ce jour-là, devant la mère de Peter Norman, Thelma, 91 ans.
This is really an exciting time for
un moment incroyable, c'est ce qu'elle décrit. Il le méritait parce qu'il a tant fait pour le sport en Australie et pour le sport globalement et qu'il n'a jamais été reconnu. La reconnaissance, ça y est, parce que depuis la semaine dernière, une statue de Peter Norman trône près du stade de Lakeside à Melbourne, sa ville d'origine.
Claire Chazal, vous aviez connaissance de l'histoire du troisième sportif sur le podium.
C'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et c'est humain, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le sport et des êtres humains.
C'est fou quand même.
C'est une image incroyable. Et vous avez présenté le JT pendant toutes ces années. Quel est le souvenir le plus fort que vous gardez d'un JT? L'image qui vous a le plus marqué?
Il y a certains événements sportifs. Alors bien sûr, hélas, j'ai envie de dire, il y a des conflits, des drames, des attentats. La déclaration, la guerre du Golfe, la catastrophe ferroviaire de Brétigny, enfin mille choses, la mort de Diana, enfin bon. Mais des événements sportifs sont restés gravés, et bien sûr les Coupes du Monde de football, parce que nous c'était notre sport, local, maison, et on a fait beaucoup de journaux dans les stades, y compris en Allemagne, y compris à Rotterdam, y compris en Afrique du Sud. Moi je me suis beaucoup déplacée et j'ai donc aimé le football.
Ah oui, on le sent, je ne savais pas, j'apprends quelque chose sur vous, Claire Chazal, cette passion du football.
Oui.
Jérôme Lacroix, c'était pas mal, mais vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur.
Ah, ça c'est fou.
Duteil, soyez vache. N'ayez pas peur, c'est pas parce
mais
que Claire Chazal est là.
Il n'y a aucune question vache, j'ai oublié de dire que c'était passionnant. Moi j'ai eu des émotions en écoutant sa chronique. Qu'est-ce que vous voulez que je prouve?
Quel compétiteur en carton! Il faut savoir se battre, Duteil. Toujours trouver quelque chose. Il faut être focus comme moi. Prenez exemple.
Bah oui, mais là j'en ai pas. Non, franchement, j'en ai pas.
Demandez-moi par exemple, le Peter Norman ce jour-là, il a couru le 200 mètres. C'est toujours le record en Australie, dis donc.
Ah, ah bon? Bah, voilà. C'est toujours le record en Australie.
Demandez-moi en combien de temps?
En combien de temps a-t-il couru le 200 mètres?
Je ne sais pas, Emmanuel.
Mais pas,
bravo.
Mais pas dans le monde, pas un record.
Non, pas dans le monde.
Ah bah non, ça reste en Australie. Quoi.
En tout cas, on remercie Jérôme Lacroix pour cette chronique. Vous vouliez ajouter une précision?
Après, c'est vrai qu'il y a un peu le côté.
Oui, on n'a plus le temps. Europe 1. À suivre, ne dites rien. Vous avez encore oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir? Votre dîner en amoureux va une fois de plus se résumer à une cracotte qui rit. Et en rentrant, votre mari, qui espérait un bon petit plat, ne réussira pas à masquer sa déception?
Bah, j'en étais sûr. Putain, ça me saoule, ça, alors.
Oh,
c'est gonflant.
Alors déjà, quittez ce soupolet de Jérôme Lacroix, vous n'êtes pas sa boniche. Et puis, puisez des idées de recettes inventives dans le répertoire gourmand d'Olivier Pouls, notre super-héros du bidou, qui vous propose chaque soir une recette dernière minute qui fera dire à vos proches...
Oui.
À tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures de fantaisie déjantée mais informative en compagnie d'invités parfois eux-mêmes encore plus fantaisistes et déjantés que nous. Par exemple, on dit souvent que l'humour est miné par le politiquement correct et que les humoristes s'auto-censurent. Même Jarry, qu'on recevait hier, nous avouait qu'il se mettait des limites. Mais bon, on a vite été rassuré quand même.
Tu sais, le soir, on est venu te voir, c'était avec une des dames qui est arrivée en retard, qui était voilée.
Je lui ai demandé si elle avait une ceinture d'explosifs. Ouais.
Ah oui, tu te fixes des limites lointaines, quoi. Oui, sacré Jarry, on l'embrasse. Aujourd'hui, changement d'univers total, c'est Claire Chazal qui passe l'après-midi sur Europe 1. Chaque soir, on vous retrouve Claire à 20h20 sur France 5 dans Passage des Arts et le samedi à 22h20. C'est quoi la différence?
La Quotidienne, qui est un magazine, reçoit un invité, c'est donc cette conversation pendant 25 minutes. Et le samedi soir, ça existe depuis 2 ans, c'est une tranche particulière que France 5 a dévolue soit à des captations de spectacles vivants, opéra, théâtre, danse, soit à des documentaires passionnants sur des artistes qui sont en train de créer.
À la fin de l'émission de La Quotidienne, vous demandez toujours à l'invité l'œuvre d'art qui l'a le plus bouleversé. Et vous, Claire Chazal, c'est quoi l'œuvre qui vous avait le plus bouleversé dans votre vie?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire bouleversé? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, des œuvres me bouleversent. L'autre jour, un de mes invités m'a proposé Le Lambeau de Philippe Lançon. Bien sûr, c'est-à-dire que depuis longtemps, j'ai pas eu un livre. Alors, je lis pas mal de choses, hein, bien sûr. Mais ce livre, à la fois pour sa qualité littéraire, pour ce que ça raconte et pour ce que ça dit de l'auteur, m'a bouleversé. Mais après, moi, je suis née, j'allais dire, à la danse, à la musique et à l'opéra, grâce au premier ballet de Béjart. Donc, pour dire les choses, ça a été fondateur pour moi. Ou alors Jean-Pierre, la Comédie Française, qui joue le Cyrano de Bergerac. C'est aussi quelque chose qui m'a amené au théâtre.
Vous avez rêvé d'être danseuse professionnelle à une époque où c'est juste un hobby pour vous, la danse. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question?
Oui, parce que j'aimais beaucoup ça étant très petite fille. Enfin, j'ai suivi beaucoup de cours. Et bien sûr, c'était un peu un fantasme. Mais très vite, j'ai poursuivi mes études. Et au fond, j'étais dans ce milieu familial qui a fait que je devais... et puis je comprenais bien que c'était précaire, très difficile. Et je crois qu'en plus, je n'étais pas du tout assez douée, même si le travail aussi est très important. Donc, c'est resté un rêve et un fantasme. Je n'ai pas vraiment voulu embrasser cette carrière.
Alors, la danse, c'est le corps. Dans un ouvrage publié l'année dernière, puisque tout passe, vous avouez sans détour que vous n'acceptez pas votre âge, vous ne faites pas partie de ces femmes mûres qui disent se sentir mieux aujourd'hui qu'à 20 ans, ça on entend beaucoup, on le lit beaucoup à la une des magazines féminins, ça pour vous c'est du bluff?
Alors non, je comprends ça très bien, et moi je ne me sens pas plus mal, et je fais finalement plus de choses peut-être qu'à 30 ans par exemple, et même plus de choses physiques parce que je vais à ce cours de danse dès que je peux, c'est-à-dire parfois tous les jours, enfin c'est évidemment si je peux le faire, mais en revanche, ce qui est difficile c'est l'horizon qui se rétréci. Ce sont des questions métaphysiques qui surgissent. C'est qu'est-ce qu'il me reste à vivre? C'est qu'est-ce que je peux former comme projet? C'est est-ce que je peux même me projeter? Et évidemment, ça, c'est vertigineux.
Est-ce que vous êtes satisfaite de votre vie, Claire Chazal? Je ne parle pas de votre vie professionnelle qui a été un succès total, mais vous disiez notamment sur le rapport à la notoriété, vous disiez que vous n'aimiez pas qu'on vous dise « Oh vous, tout le monde vous aime ». À cela, vous répondez toujours « Tout le monde, c'est comme personne ». Est-ce que la notoriété, ça a faussé votre rapport aux gens quelque part?
Non, je dirais pas ça. Alors, il y a des moments noirs, il y a des moments, encore une fois, de ces interrogations profondes de la solitude qu'on ressent. Mais la solitude, on peut la ressentir avec ses amis à côté. Bon, et ça, je n'y échappe pas, j'ai envie de dire. Mais je me sens très privilégiée. Oui, j'aime ma vie. J'ai la chance d'abord de travailler beaucoup, faire des choses que j'aime, de voir donc des artistes, de découvrir ce monde de la culture. C'est ça qui m'épanouit. J'aime aussi le partager et j'en ai la possibilité. Donc oui, je crois que je peux dire que j'aime ma vie, oui.
C'est dur à dire.
Oui, c'est difficile à dire. Oui. D'abord, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Moi, je ne crois pas être... Je ne peux pas dire que je suis heureuse, c'est très compliqué. On a des moments de bonheur, des moments de joie, enfin, des moments de plaisir. Mais le bonheur, c'est un état un peu extatique. Alors là, on est étranger à ça.
Je n'ai pas envie d'être goujat, mais vous êtes d'une génération, je me permets de le dire, les enfants, on se disait toujours que nos enfants vivraient mieux que nous. Est-ce que vous, pour votre enfant aujourd'hui, pour en parler, est-ce que vous pensez qu'il vivra mieux que vous? Est-ce que vous êtes inquiet?
Oui, je trouve que d'abord le monde qui nous entoure avec cette rapidité, ce zapping, cette façon de jeter en pâturage des gens et après de les salir à jamais, ces commentaires à la hâte, cette non-complexité. Voilà, moi je crois qu'on meurt de l'absence de complexité. Et essayons de dire des nuances, de voir que les problèmes sont plus compliqués qu'on ne le dit. Bon, et ça, je le ressens. Par ailleurs, il y a bien sûr la planète qui est menacée, on en a parlé. Il y a aussi un rapport au travail qui est sûrement différent. On disait que tout à l'heure, les jeunes achetaient un appartement, mais c'est parce qu'ils pensent autrement.
C'est parce qu'ils ont peur.
Moi, j'ai jamais acheté un appartement avant d'attendre un enfant. D'ailleurs, je savais que j'aurais, enfin, je savais que j'y arriverais. Ouais. Je savais que j'aurais une vie différente de celle de mes parents. Je le voulais et je le savais. Je ne suis pas sûre que pour les enfants, ce soit la même chose.
Vous la retrouvez tous les soirs dans Passage des Arts à 20h20 sur France 5. La passionnante Claire Chazal est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre. Alors, bande d'étourdis, on a encore oublié de faire les courses pour ce soir? Heureusement que chaque après-midi vers 6h moins le quart, un héros culinaire vole à votre secours. Il s'appelle Olivier Pouls et dans sa rubrique Délices in Extremis, il vous livre une recette explosive pour épater vos proches ce soir. Même si vous êtes une quiche en cuisine, avec un minimum de matériel, vous devez y arriver. Jérôme, vous avez au moins une poêle chez vous.
J'ai jamais su quoi en faire.
Eh bien, je vous explique juste après. Hey Little Sister, Imani sur Europe. Hey Little Sister, je fais bien le hey, je mets l'enthousiasme, hein. C'était Imani sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. La première émission humoristico-journalistico-culinaire.
Hey,
Presque aussi difficile à dire que ça. Puisque chaque jour, vers 6h moins le quart, notre expert S-Papy débarque avec cette recette alléchante pour surprendre vos proches, Claire Chazal, je vous présente Olivier Pouls, expert gastronomique et philosophe belge, partisan d'une vaste réforme du système scolaire.
On continue à nous apprendre des théorèmes de maths dont on ne se servira jamais, alors qu'apprendre à cuisiner, on s'en servira tous les jours. Tu crois que je me nourris avec Pythagore ? Authentique.
Olivier, respirez fort. Claire Chazal vous donnera le 06 de Blanquer, vous verrez ça directement avec lui. Mais pour le moment, donnez-nous plutôt la recette qui va vous sauver la mise ce soir.
Eh bien, nous allons, parce que je sais que Claire Chazal, qui aime particulièrement le Luberon, je ne sais jamais comment on dit.
Personne ne sait.
Voilà, exactement. On va profiter des dernières tomates de la saison.
Et encore c'est les tomates,
mais
maintenant
oui, c'est vraiment
c'est
les toutes dernières. Mais vous savez, c'est maintenant qu'elles sont vraiment les meilleures. Et on va mettre un peu d'été en pot, en boîte ou au congélateur pour ressortir quand les premiers frimas de l'hiver arriveront.
Ah, c'est
magnifiques tomates. On va stocker du coulis de tomates. Alors, pour stocker, il faut le faire d'abord, évidemment. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous allez au marché, bien évidemment, mais vous allez à la fin du marché. Parce qu'en général,
pourquoi
à ce moment-là, ça déstocke un peu.
C'est moins cher.
Et on n'a pas besoin de très belles tomates pour faire du coulis.
Vous allez
négocier.
Belle,
évidemment, mais... il faut qu'elles soient bonnes. Et vous allez négocier avec les producteurs en fin de marché.
Alors,
un petit prix.
Comment on négocie. Je suis Olivier Pouls, j'arrive au marché.
Voilà.
Voilà.
Oh, mais dis donc, vos tomates, elles sont un petit peu abîmées, là. Et il vous en reste un petit. Vous n'allez pas les vendre. 6,80€ le kilo.
Oh, vous êtes fou. Ah non, je passe mon chemin.
Un petit peu cher. Bon, allez, je vous en prends 4 kilos, vous me les faites à combien? Hop, là, c'est
5
parti.
Euros.
C'est
parti.
Bien sûr, 5 euros. Merci Eva. Peut-être 4,50€, Mathieu.
Moi, je ne les prends pas. Au-dessus de 4 euros, je ne suis pas preneur.
Voilà, donc vous allez ramener votre cagette de tomates.
Pardon, sérieusement, une question sérieuse. Quel type de tomates on prend?
Alors, on prend
pour
des tomates plutôt bien charnues. On ne prend pas des variétés de couleurs, des jaunes, des vertes, etc., qui sont un peu trop acides. On va plutôt prendre de la belle tomate bien mûre, bien charnue, bien rouge, type cœur de bœuf, etc., qui a beaucoup de chair. Avec ces cageots de tomates, on va prendre une petite gousse d'ail, on va prendre un petit peu de thym, on va prendre une ou deux échalotes, on va rentrer à la maison et on va faire notre coulis tranquillement. Donc on fait suer dans un petit peu d'huile d'olive notre échalote, notre oignon, notre petit morceau d'ail. On va mettre les tomates grossièrement coupées en morceaux et on va laisser blop-blop-blopper ça pendant une vingtaine de minutes. Hein, ça va cuire tranquillement. Sel, poivre, on peut rajouter un petit peu de thym. On va mixer le tout à la fin. Le passer au tamis, parce qu'il y a toujours des petits morceaux de pépins, de peau, etc. Donc, passer au tamis ou au moulin à légumes. On va remettre une petite ébullition pour épaissir le coulis. Moi, j'aime bien qu'il y ait une texture un tout petit peu épaisse. Et après, il faut le stocker. Et là, il y a deux écoles. Il y a une école qui est très facile, c'est l'école congélateur, dans des petits bacs congélateurs, tout simplement, ça marche extrêmement bien. Et sinon, dans des pots. Alors, petite précaution pour les pots, il faut les stériliser avant. Et comme la confiture, on verse dans les pots le coulis encore brûlant. On en verse jusqu'en haut pour qu'il n'y ait pas trop d'air. On ferme, tac, dans un placard. Et puis tout au long de l'hiver, on va pouvoir manger de délicieux coulis de tomates.
Eva Rock,
est-ce qu'on peut mettre ce coulis dans des bacs à glaçons?
Évidemment.
Pour avoir des petits cubes.
Mais c'est génial.
Ah, on est d'accord.
Des cubes
absolument
de glaçons.
Oui, des petits cubes de glaçons sauce tomate. Mais comme ça, on est quitte d'en décongeler des quantités importantes.
Oui,
on a juste un petit glaçon de tomate qu'on peut utiliser comme ça dans une sauce. Tac.
C'est vachement malin. Ah,
c'est vachement
vous voyez la fille qui est célibataire et qui vit toute seule?
On voit,
Eva. Après, il reste la dernière solution pour Mathieu, c'est de descendre au Franprix et puis d'acheter une brique. Ça marche aussi.
C'est souvent ce que je fais, malheureusement, malgré tous vos bons conseils. Merci, Olivier Pouls. On vous retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants. Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Vous ne voulez rien manquer de l'actu culturel. Passage des Arts tous les soirs du lundi au vendredi à 20h20 sur France 5. Claire Chazal passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
C'est la dernière ligne droite pour nos journalistes. Le sprint final. Autour de la table, tout le monde retient son souffle. Et Emmanuel Dutheil va probablement se redresser sur sa chaise.
Non, parce que je veux que mes pieds touchent le sol.
Qui va être élu chroniqueur du jour? Qui va être élu chroniqueur du jour? Vous ne pouvez pas ne pas être là.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Quelle jouissance que de sentir que tout le studio Coluche, toute la rédaction d'Europe 1, que dis-je, toute la France est suspendue à mes lèvres. L'heure du dénouement a sonné dans l'équipe est sauvage. Emmanuel Dutheil, Anis Mbida, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix, qui sera élu chroniqueur du jour?
J'ai choisi Roger Federer.
Non, non, comme vous, contrairement à GG, vous avez compris les règles, vous avez voté... Vous avez voté via Twitter. Eva Rock, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Et bien alors là, c'est une première.
Je vous sens perplexe.
Oui, on a deux candidats qui sont à 28%, Anissé et Jérôme Lacroix. Donc je vous propose de faire un pile ou face hein, pour savoir qui va obtenir les deux
alors,
points.
Alors je regarde en régie si l'huissier de justice qui supervise l'émission est d'accord. Il me fait signe que oui, on s'en fout, on peut faire ça.
Jérôme Lacroix, vous choisissez pile ou face?
Ah bah, je choisis en premier, je suis avantage. Oui, bon, bah, alors je choisis face.
Et vous choisissez quoi C'était une blague. C'était une blague.
En fait, vous l'avez bien joué. Cette candeur était.
Vous avez choisi face?
Oui.
Face ou pile?
Face, Jérôme Lacroix, attention.
C'est pile.
Désolé, c'est Jérôme, c'est Anissé qui remporte toujours. Quoi qu'il arrive, c'est toujours Anissé qui gagne. C'est pas très compliqué. Anissé, vous avez déjà 29 points, vous en avez maintenant 31. Vous êtes plus que jamais le leader du championnat européen. Pour ma part, à qui vais-je octroyer mes points aujourd'hui? Je vais octroyer mes points à Jean-Philippe Ballas,
oui,
pour sa très belle histoire à l'opéra. J'ai toujours rêvé de remplacer au pied levé comme ça Jonas Kaufmann par exemple.
Mais bien sûr.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense que le public n'y aurait pas perdu au change. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. C'est donc à Claire Chazal que revient la lourde responsabilité puisque 4 CDI sont quand même en jeu de trancher. Attention Claire, on note la chronique, pas le journaliste. Sinon forcément certains seraient favorisés.
Au départ, je voulais tout de suite les donner à Emmanuel Duteil parce que bon, bah, j'aime beaucoup son papa, chanteur.
Emmanuel Duteil, au revoir.
Non, officiellement.
Bref, Claire, on embrasse le papa d'Emmanuel. Claire, votez, mais tous nos invités la font. Votez en votre âme et conscience. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Alors moi, j'ai trouvé tout bien. Hein. Ça m'a intéressé beaucoup. Non, le papier sur l'immobilier, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup.
Ah, c'est déjà pas moi, là.
Non. La chanteuse remplacée, l'environnement, bien sûr, les plastiques. Mais c'est vrai que moi, j'ai été émue par la chronique de Jérôme Lacroix. Donc en fait, ce qui me plaît, c'est l'émotion que ça suscite. Et on a d'abord découvert quelque chose, bien sûr. Enfin, partout, les 4 papiers nous ont fait découvrir quelque chose. Mais là, en plus, on a vibré. Voilà.
On a vibré avec vous, Jérôme Lacroix. Emmanuel Duteil va aller pleurer dans les sanitaires d'Europe 1. Mais c'est Jérôme Lacroix qui remporte cette 39e édition de l'Équipée Sauvage. Vous la retrouvez tous les soirs sur France 5, du lundi au vendredi à 20h20 dans Passage des Arts et le samedi à 22h20. On remercie Claire Chazal d'avoir joué le jeu de l'Équipée Sauvage cet après-midi. Merci Claire.
Merci à vous.
Merci
également à mes précieux loustiques de la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Anissé Mbida, Jean-Philippe Ballas, Emmanuel Duteil, Jérôme Lacroix. L'Équipée Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, place à l'info avec un grand I sur Europe 1. Avec les Jeanne et Serge du News, Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, je ne sais pas si je dois vous saluer franchement. Jeanne et Serge, mais vous m'avez bien regardé. Bon allez, à demain quand même, parce que ce soir c'était Claire Chazal, mais demain d'autres surprises. C'est sûr, dès 16h en public d'ailleurs, comme tous les vendredis. Salut à vous Mathieu.
16h, 18h,
l'Équipée Sauvage sur Europe 1.